Donc on va rebondir, donc à la fois respecter la croyance des élèves et en même temps ne pas se satisfaire du clivage entre la croyance et l'enseignement, ce qui est une tension peut-être, une difficulté.
Prof ou rien.
Est-ce que...
Je voulais apporter éventuellement quelques précisions sur, comme vous dites, on a fait tout un travail interdisciplinaire. Concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire que vous avez fait des cours de discussion dans la classe, où vous étiez tous les deux interlocuteurs privilégiés. Est-ce que vous avez fait des documents en commun? C'est quoi un travail interdisciplinaire sur l'OSBT concrètement dans la classe?
Alors, dans l'organisation, pour toute l'année, nous avons demandé à, au niveau de notre emploi du temps, donc nous avons deux terminales S différentes. Et nous avons demandé à ce que les cours de philosophie soient en barrette avec les cours de SVT. Ce qui fait qu'on pouvait regrouper tous les élèves sur les deux mêmes heures. Donc ça nous permettait de faire venir les conférenciers, etc. Ça, c'est sur le plan pratique. Maintenant, sur le plan d'organisation, en fait, dans un premier temps, nous discutons ensemble sur un des thèmes qui pose problème. Et on construit ensemble l'intervention en amenant chacun nos connaissances. Et on prépare une intervention vis-à-vis des élèves où on essaye de les mettre en activité comme on le ferait pour n'importe quelle partie du cours, sauf que nous les avons tous ensemble et nous intervenons donc à deux voix. Et généralement, ils ressortent avec un document, des choses comme ça.
Mais c'est vrai que on essaie d'avoir un discours à deux voix pendant le cours. On élabore également des documents ensemble. On discute beaucoup tous les deux. En fait, voilà, ça prend beaucoup de temps et on essaie de vraiment jouer le jeu de l'interdisciplinarité. C'est pas uniquement moi, par exemple, qui viens dans un cours. Alors parfois, ça nous arrive quand on n'a pas le temps. Je viens avec une réflexion qui complète ce qui a été fait en cours de SVT, qui soit de type philosophique. C'est moi qui mène le jeu, entre guillemets. Mais on essaie de faire ça le minimum. Notamment, on a mis en place un atelier aussi, un atelier scientifique, où c'est un atelier à deux voix, où on a des thèmes qu'on propose aux élèves. Alors c'est vrai qu'il y en a peu qui viennent quand même, hein, parce que c'est pas facile de d'affronter ces questions-là. Mais voilà, on fait des choses comme ça.
Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même, d'ailleurs ça s'est vu au colloque en novembre, que quand on va dans un pays étranger, on a un choc culturel. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en travaillant ensemble, que j'étais formatée, moi, culture scientifique et mode de pensée scientifique, même pour structurer ma pensée, et que lui, en tant que philosophe, il avait une autre démarche et une autre structuration de pensée. Ce qui fait que pour parler d'un même thème, et pour sortir une synthèse ensemble, ça prend du temps. Beaucoup de temps et beaucoup de patience. Voilà, on a des souvenirs, des thèmes qui ont pris des mois. Sur l'animalité de l'homme, c'est... La salle des profs, on s'en souvient encore.
Oui, on a commencé à animer la salle des profs et après...
Alors, tout le monde y participait, prof d'histoire géo. Donc,
voilà.
Mais c'est vrai que c'est pas simple.
Mais on essaie vraiment de faire ça ensemble, quoi. C'est pas deux choses qui se mettent côte à côte et qui se superposent. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais les documents sont faits ensemble. On a mis en place des diaporamas. Voilà. Tout ça se fait ensemble. Et là, notamment, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, moi, je trouve passionnant, c'est que je relis ces cours de bio et je fais mes critiques avec ma façon de penser et on élabore, il y a des choses qui me semblaient, sur le plan notamment épistémologique, parfois, ça, il y avait des choses à dire, donc c'était intéressant, quoi. Voilà. Il y a le monsieur, je crois.
Non, mais vous nous mettez l'eau à la bouche, mais est-ce que vous pourriez nous montrer, je sais pas, sur l'animalité de l'homme, un exemple concret de vos interventions, de l'apport de l'un et l'autre, de comment ils se complètent, quels sont les points de vue, la façon d'aborder les problèmes.
Sur l'animalité de l'homme, par exemple ?
Par exemple.
Ben, en fait, ça, c'est notamment, on a commencé avec des secondes, ça. Parce que les secondes réagissaient de manière épidermique. Donc, on en a parlé. Et donc là, c'est notamment le genre d'intervention où je suis venu avec quelque chose de préparé sur cette chose-là. Et on en avait parlé. Elle m'avait surtout... Là où c'était interdisciplinaire, c'est qu'elle m'avait... J'avais proposé un canevas. Elle m'avait dit « Impossible que ça passe avec les secondes ». Donc, moi, ça m'avait obligé de me mettre au niveau des secondes. Et ensuite, ce qu'on avait fait, c'est que je viens au tableau, j'écris « L'homme est un animal ». Et après, on laisse la cocotte minute là qui sort. Et après, on réélabore tout ce que font les élèves à deux voix. C'est-à-dire que on essaie de montrer, ben voilà, voilà ce qu'on peut dire sur le plan scientifique. Vous pouvez pas dire autre chose que ça. En tout cas, enfin, voilà ce qui se fait en biologie. Et après, j'essaie moi de montrer que avoir un discours biologique sur l'homme, ça n'occulte pas un discours sur les valeurs, notamment un positionnement plus de valeurs. Et donc, on essaie de montrer que c'est pas parce qu'on dit que l'homme est un animal qu'on le réduit à un animal. En fait, voilà, on essaie de leur montrer comment articuler les différents discours. Mais là, je dois vous avouer que c'est pas évident. Il y a encore des choses. On doit encore peaufiner tout ça, quoi. Mais voilà, on essaye de faire surgir la difficulté en cours.
Et après, concrètement, on demande aux élèves de nous donner une définition de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme ? Donc, ils nous donnent plein de définitions, et on arrive à travers toutes les définitions qu'ils nous donnent à les réfuter, sauf une, qui est la définition biologique. Et à partir de là, on reconstruit effectivement et on réintègre tout le système de valeurs en disant que l'homme ne se réduit pas à un animal et on reconstruit par ailleurs. Donc ça nous permet sur un même objet qu'est l'homme de leur montrer qu'il y a des points de vue différents et qu'il n'y a pas un qui exclut l'autre. Si on dit que l'homme est le seul animal intelligent, c'est un extraterrestre qui vient et qu'il est intelligent, c'est un homme. Donc on essaye vraiment de les ramener quand même à une définition biologique qui est la définition la plus acceptable, qui est le moins réfutable, et ensuite on élargit par rapport au système des valeurs.
Mais en philo, il y a un corpus de textes qui est revisité, qui vient en appui du discours philosophique. Vous leur donnez des textes à lire. J'essaie de comprendre aussi du point de vue de la démarche, la méthode.
Bien, c'est que c'est en seconde.
En seconde, non, mais justement, parce qu'en philo, on s'appuie quand même essentiellement sur des textes. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai des auteurs. La pensée des auteurs. Donc, qu'est-ce qui est mobilisé du côté de la philo à part du questionnement, et je trouve ça très bien, mais...
Bien sûr, oui. Alors ça, à la limite, je le ferai avec des terminales. Mais avec les secondes, en fait, ce qu'il y a, c'est que on n'a pas beaucoup de temps, et voilà. Donc, j'essaie de jouer dans les contraintes qui me sont imparties, et en fait, j'essaie d'apporter essentiellement un travail de problématisation, en fait. Et je voudrais pas arriver, par exemple, comme avec des solutions. À la limite, le seul texte que j'utilise, c'est le texte de Diderot, de l'Encyclopédie sur l'homme. Voilà. Où, en fin de compte, il montre qu'on peut pas le définir. C'est surtout ça qui... J'essaie de montrer qu'en fin de compte, tout ça, c'est de l'ordre du problème, avant d'être véritablement une question de solution, tout clé en main à apporter, en fait. Mais je dois vous avouer que c'est pas évident. Hein. Et je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans notre discours. Hein.
Moi, je voulais questionner un peu plus aussi pour que tu donnes un exemple, par exemple, de ta lecture du cours de biologie et des interventions épistémologiques. Est-ce que tu peux...
Alors là, on a commencé là, mais...
Qu'est-ce qui te choque quand tu lis un cours de biologie
En fait, c'était plus sur le statut des affirmations. Il me semblait qu'il y avait une hiérarchisation dans les affirmations qui devait être faite et qui devait être mieux articulée, en fait, pour pas que, justement, on ait une impression un petit peu d'affirmation dogmatique, en fait. C'était surtout ça. Mais là, bon, c'est vraiment le chantier, là, en ce moment. Ouais.
Et j'avais une question pour essayer d'expliquer la différence de perception qu'ils ont entre un intervenant et vos interventions. Tu as évoqué les contraintes. Tu as dit pour les secondes, ben j'ai un certain nombre de contraintes. Est-ce que vous pourriez évoquer les contraintes que vous avez eues liées à votre statut d'enseignant dans la classe pour les projets que vous avez menés avec les élèves de terminale.
Mais tu veux dire des contraintes liées aux élèves ou des contraintes plus larges, administratives ou...
L'ensemble des contraintes qui feraient que vous soyez perçus comme différemment des intervenants qui finalement interviennent ponctuellement, mais libres des contraintes de programme, de rapport à l'administration, à l'institution, etc.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une question de statut dans l'esprit des élèves. C'est pas tant une question de contraintes parce que... Comment dirais-je ?
Est-ce que le baccalauréat, c'est quelque chose qui vous contraint ? Par exemple, un intervenant ponctuel, il est absolument pas... engagé dans cette...
Ce qui nous contraint, là, ce qui nous a... On a eu une double contrainte cette année qui n'était pas prévue. Effectivement, on prend sur nos cours de SVT et de philosophie pour faire venir des conférenciers. Donc c'est du temps qu'on a en moins pour faire le programme. Maintenant, On estime que c'est important pour les élèves. Par conséquent, on prend ce temps-là et on a suffisamment d'expérience par rapport au programme de terminale pour pouvoir jongler, accélérer à certains moments pour gagner du temps, etc. Mais il est vrai que cette année, il y a eu les blocus. On a perdu beaucoup de temps. Donc là, ça a été... Et en même temps, on avait programmé des conférenciers. Donc on n'a pas programmé plus, mais en même temps, on ne pouvait pas les déprogrammer. Donc de ce point de vue-là, il a fallu qu'on réajuste. Maintenant, du fait que les élèves nous perçoivent différemment que les conférenciers, je pense que... C'est vraiment mon intuition, hein. On est d'accord. Hein. Je pense que c'est le statut de l'école et des professeurs qu'ils ont et quand ils viennent à l'école, tout simplement. C'est pas tant une histoire de les profs sont pressés, prennent pas le temps de m'écouter. C'est pas tant ça que les profs dans leur esprit sont là, a priori, pour faire ça. Et on sait qu'à l'extérieur du lycée, comment dirais-je, ils discutent. Et ils ont un mode de pensée aussi qui est commun à la communauté et donc ils ont une certaine idée de ce que sont les profs, je pense, et du coup quand ils arrivent au lycée ils sont pas neutres, quoi.
Mais Pierre, il ressemble à un prof quand il intervient.
Mais c'est pas un prof du lycée.
C'est pas un prof du lycée.
Oui, oui. L'évaluation, le fait d'être évalué par vous, est-ce que vous pensez que ça joue ?
Non, vraiment, je crois vraiment que les élèves, ils comprennent bien, et c'est vrai que je leur dis en début d'année d'ailleurs, ils comprennent bien que justement, on ne fait pas passer que le programme. C'est ça en fait, ils voient bien, et je leur dis mon début d'année, je ne suis pas là que pour vous préparer pour le bac. Je vous amène à réfléchir, à vous remettre en question. Il faut que le cours de philosophie, il suscite ça, sinon ça sert à rien. Sinon, on fait que du bachotage. Et donc, je pense que, en fait, moi, je pensais plaider pour ma matière, et en fin de compte, en faisant ça, je me proposais comme une sorte de, pas d'ennemi, mais en tout cas, de quelqu'un dont il faut se méfier, finalement, comme quelqu'un qui voudrait rentrer dans leur esprit et... Et donc, comme on a certains élèves qui sont dans des postures finalement identitaires, ils ont peur finalement de perdre leur identité, ils ont l'impression qu'on est en train de les faire se transformer. Donc là, je crois que c'est plutôt là, quoi, la contrainte principale. C'est une contrainte qui est extrascolaire, en fait. Et qui pourtant n'est pas tellement extrascolaire, puisque je considère, moi, que en tant qu'enseignant de l'école de la République laïque, je dois promouvoir des valeurs qui sont des valeurs émancipatrices d'ouverture à l'universel. Je sais que ça fait pompeux, mais je pense quand même que c'est ce qui justifie notre enseignement, quoi. Et je pense que c'est là où justement ça se joue. C'est pas une question de contrainte. C'est vraiment où ils vont me percevoir et ils vont nous percevoir d'après une grille de lecture où on apparaît comme tenant d'une idéologie, en fait. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on voit bien notamment que tous les textes qui veulent lutter contre la théorie de l'évolution, que ce soit Harun Yahya, que ce soit des gens comme Kaskas, ces gens-là essaient de présenter la théorie de l'évolution comme une sorte de fer de lance d'une idéologie matérialiste, athée, etc. etc. Il suffit de lire le Wedge Document de ceux qui prônent l'intelligent design aux États-Unis, etc., etc. C'est toujours présenté comme ça. Donc nous sommes les tenants d'une idéologie.
Je crois qu'il y a... Je trouve que c'est une expérience remarquable, d'autant plus remarquable que manifestement, vous élaborez ça ensemble depuis 3 ans.
4 ans.
4 ans. Et justement, vous parlez beaucoup des élèves, mais vous ne parlez pas vraiment de vous. Ça vous a transformé comment, ces 4 années de travail à partir de vos disciplines, mais qui se sont rapprochées?
Je ne le supporte plus.
Je suis en psychothérapie.
Comment ça nous a transformé? Moi, ça m'a permis de me former en épistémologie. Parce que je n'étais pas du tout formée en épistémologie et de faire effectivement, de prendre du recul par rapport à mon enseignement. Et ça m'a conduit à revoir notamment mon cours en seconde et dans d'autres niveaux, même s'il n'intervenait pas directement. Donc ça, c'est la première chose. Et ça m'a permis également de prendre conscience de manière beaucoup plus concrète de la difficulté de mes élèves. Parce que moi, qu'en cours de biologie, ils ne me disaient rien, les élèves. C'est uniquement parce qu'ils intervenaient en cours de philo, qu'ils râlaient en cours de philo, qu'en faisant un travail tous les deux, la parole s'est libérée et qu'on a pu commencer à discuter avec les élèves. Autrement, ils ne disaient rien. Donc ça m'a permis de mieux comprendre finalement les élèves que j'avais en face et du coup d'être plus attentive aux exemples que je prenais, à l'attention que je pouvais mettre dans l'explication et à l'investissement qu'il pouvait y avoir également. Donc voilà, ça c'est pour moi.
Alors moi, en ce qui me concerne, ça a complètement transformé le discours que j'avais avec les élèves. Parce que j'avais un discours très combatif, militant, en me disant on va secouer le cocotier et puis ça, on va y arriver quoi. C'est pas possible de penser comme ça. Et donc ça m'a obligé, en fin de compte, à avoir une posture, toujours en référence à ce que j'ai dit à la fin, qui soit plus laïque en fait. Que je respecte. C'est-à-dire que ça m'a amené à être obligé de bien respecter mes élèves. Si je voulais qu'ils m'écoutent, il fallait bien que je sois plus attentif aussi à d'où ils me parlaient. Quoi. Donc ça, par rapport aux élèves, ça m'a permis d'avoir une vision différente et d'aborder la chose de manière plus mesurée. Plus mesurée. Et donc ça a changé ça dans mon rapport aux élèves et par rapport à mon enseignement, je me suis rendu compte à quel point on ne connaît pas assez bien la biologie et que dans nos cours de philosophie en général, je dis nous parce que justement j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se faisait chez les collègues où il suffit de surfer un petit peu et de voir les cours sur le vivant qui sont faits, je crois qu'on aurait franchement à retravailler tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point on a un enseignement sur le plan... En philo, on a un enseignement qui est trop tourné sur l'histoire de la philosophie. Et donc, on en vient à toujours opposer Aristote, le vitaliste, et Descartes, le mécaniste. Et en fait, quand je fais un cours comme ça avec des élèves de TS, c'est de la rigolade. Donc, en fait, je pense que ça m'a montré à quel point il fallait que, finalement, que je parle de là d'où ils sont et notamment leur montrer que je pouvais maîtriser quelques objets et à partir de ces objets faire un travail d'épistémologie. Je pense que là ça porte plus ce que je fais. Voilà.
Alors juste une remarque par rapport à votre description d'un des résultats qui vous a surpris. Donc c'est vrai que et tous les enseignants de didactique vont vous dire vous avez bien mis en évidence la qualité d'une situation adidactique, c'est-à-dire de faire intervenir un extérieur dans une situation de contrat marqué qui représente une institution à l'intérieur d'un système bien connu. Tout ça a été bien mieux décrit que je pourrais vous le dire en quelques phrases par Chevalard, hein, c'est l'écologie des savoirs, et qui mérite justement qu'on s'y attarde. Et c'est là que je suis un peu surpris sur cette absence de distanciation des élèves vis-à-vis de l'institution, notamment en terminale. C'est-à-dire que j'avais l'impression, mais c'est une impression et vous me confirmez le contraire, peut-être qu'il faudrait que je re-regarde toutes les études qui ont été faites là-dessus, j'avais l'impression qu'ils arrivaient à ce moment-là à avoir un début de distanciation vis-à-vis de l'institution. Or, vous démontrez le contraire, enfin, en tous les cas, sur les quelques années que vous avez observées. Et puis, donc ça, c'est la première remarque. Après, peut-être que ça justifiera d'autres réactions. La deuxième, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous envisagez pas, maintenant que vous avez fait de l'inter, de faire du pluri ? C'est-à-dire le passage dans l'expérimentation au stade suivant, c'est-à-dire de voir de quelle façon vous pouvez aller au-delà de ce deux voies. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez envisagé de faire un travail d'une voie multiple ?
Alors, je vais partir du deuxième point.
Oui.
Après. En fait, le pluridisciplinaire, c'est tellement difficile, long, compliqué de faire de l'inter. Alors, finalement, ça revient à la question des contraintes. C'est, l'interdisciplinarité, ça demande du temps. Et on n'a pas de temps. Et en fait... on s'est donné le temps, on peut se le donner, et c'est ce qui permet qu'on puisse faire ce travail-là. Mais faire du pluridisciplinaire, je ne sais pas comment c'est possible. Alors je ne sais pas, il faudra en parler à notre ministre, et qu'on ait beaucoup plus de temps, et que ce soit intégré dans notre temps de travail.
À votre directeur,
à notre proviseur. Mais notre proviseur, alors... par rapport aux contraintes... on a été soutenu par l'administration à 100%, parce qu'on est dans plein de dispositifs, ambition réussite, patati patata, mais on est soutenu comme ça, hein, allez-y, hein, c'est bien. Mais par contre, en termes de temps, bon, on est d'accord. Hein.
Ils ont accepté de mettre nos cours en barrette, mais c'est tout, quoi.
Voilà.
On n'a rien de plus.
Mais c'est déjà pas mal, on est très contents. Hein. Mais par contre, le pluridisciplinaire, je vois pas comment c'est possible. Par contre... ah oui, après, oui, si...
Ça serait intéressant, mais c'est vrai que... Et par rapport aux élèves de terminale qui ne prennent pas de distance par rapport au système éducatif, je pense que c'est une particularité de nos élèves de Vaux-en-Velin. À savoir qu'à Vaux-en-Velin, ce qui fait que c'est agréable de travailler là-bas, malgré tout, c'est que ce sont des élèves qui croient encore à l'école. Ils croient encore à l'école et ils attendent beaucoup des professeurs. Ils sont très exigeants. Ce sont des élèves vraiment exigeants. Donc je pense qu'ils n'ont pas de capacité de distanciation très importante par rapport à d'autres élèves qui seraient issus de milieux socio-économiques, par exemple, plus aisés, qui ont de l'aide à la maison. On a des élèves, beaucoup d'élèves, qui préfèrent venir travailler au lycée plutôt que de travailler chez eux et qui attendent un grand retour des professeurs. Donc je pense que c'est lié à ça, ce manque de distanciation.
Oui, justement, par rapport à ça, je vais demander si vous pensez que ce genre de travail interdisciplinaire sur ce sujet-là aurait autant de réactions aussi de la part des élèves si c'était dans n'importe quel lycée avec une communauté moins importante musulmane, par exemple.
Alors, j'avais discuté avec une collègue de français qui était où ? Là, ça me joue des tours. Enfin, je dirais que c'était dans un quartier plutôt bourgeois, un collège plutôt bourgeois, et elle avait des réactions créationnistes. Donc je ne sais pas si ça aurait... Mais je pense que la théorie de l'évolution, c'est vraiment une théorie contre-intuitive. Et ça ne m'étonnerait pas que dans d'autres établissements qui sont, où les élèves ont appris, peuvent avoir des a priori parce qu'ils ont un enseignement religieux, et au prime abord, peut-être pas aussi longtemps, mais au moins des préjugés à la compréhension de cette théorie.
Mais
bon, il faudrait faire une étude, hein.
C'est vrai qu'une des limites, et on en est bien conscient, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour l'interdisciplinarité, tous les deux, et que c'est vraiment, entre guillemets, en lien et dans la situation dans laquelle on est, quoi. Avec les élèves que l'on a, voilà. Alors après, que ce soit transposable, je ne sais pas. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de faire intervenir un conférencier sur des questions controversées. Je pense que notamment que les élèves fassent bien le lien entre ce qui est de l'ordre de la science et puis tout l'usage que l'on peut en faire, notamment pour ceux qui étaient là le 13 et 14 novembre, quand Pierre-Henri Gouillon fait son, entre guillemets, son show et son intervention sur la question des gènes. Il montre bien justement l'usage que l'on peut faire un usage idéologique de la science. Je pense que ça peut servir à tout le monde, donc ça peut avoir son intérêt. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment généraliser ce qu'on fait dans toutes les, de partout, quoi. Déjà, ne serait-ce que par la difficulté que l'on a de travailler ensemble.
Moi, j'avais envie de souligner le fait que vous avez mis en avant l'importance de ces conférences, de ces conférenciers qui étaient extérieurs et qui seraient presque, entre guillemets, la clé. Mais j'avais envie de souligner ce que vous avez dit aussi. C'était, vous, est-ce que ça ne vient pas aussi en grande partie de vous, de votre formation qui a changé et de votre changement de posture face aux élèves ?
On pense que c'est complémentaire, oui.
On pense qu'on a... le travail interdisciplinaire qu'on fait a secoué les élèves, brassé, les a fait au moins questionner un minimum, et l'avenue des conférenciers permet...
C'est un tout, oui. On peut penser que si on se contente de transposer des conférences dans un autre établissement, on ne résolvera pas forcément le problème.
C'est sûr, c'est sûr.
C'est possible.
On ne les a pas lâchés, là, les élèves. Hein. On leur a dit, vous venez manger entre midi et deux, tel lundi. Notamment pour François, c'était intéressant parce que les élèves ont continué à ne pas vraiment se manifester en cours de SVT. Donc elle leur a dit un jour, écoutez, vous venez manger à telle heure et vous allez me dire quels sont vos problèmes. Donc pour que véritablement on ait un... Pour qu'à chaque fois, on les oblige à en parler, à se signifier, à donner leurs arguments. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a vu à quel point c'était bien idéologique. Ils nous ont dit, mais tout ça... Ils nous ont montré que finalement, pour eux, c'était idéologique, tout ça. D'ailleurs, moi, ça va me changer mon cours l'année prochaine. Je vais leur faire un cours sur Darwin, sa vie, son œuvre, hein, et pour qu'ils sachent que c'est un homme et qu'ils arrêtent d'en faire une sorte d'épouvantail avec la grande barbe, avec un corps de singe, et que pour les obliger à avoir des représentations différentes. Donc, ça m'a obligé à changer aussi mon type de discours.
Donc, Serge Acassi, je suis président de l'Association des professeurs de biologie. Déjà, je suis très jaloux parce que vous avez mis en place finalement ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais j'ai pas eu malheureusement de professeur de philosophie qui eut envie de sauter le pas à l'époque, donc bravo. Non, mais je trouve que c'est une démarche extraordinaire que vous faites, parce que ça montre que sur ce type de problème, en fait, notre démarche scientifique n'est pas suffisante. Voilà. Ça met aussi en évidence qu'on a des lacunes de formation. Hein. Bon, tu parlais d'épistémologie. Le nombre de collègues qui, quand on sort d'épistémologie, épisté quoi ? Voilà. Non, mais c'est, je caricature, mais je crois que c'est vraiment important. C'est vrai que ce dont vous parlez, c'est une expérience qui est faite dans un lycée avec une population particulière. Bon, moi, j'ai enseigné pendant presque 20 ans dans le 93. Donc on avait à peu près les mêmes élèves. C'est sûr que la posture des élèves dans un autre contexte, dans un autre milieu social, est différente. Mais c'est pas pour ça que il y a quand même des questions et que peut-être qu'elles sont moins évidentes, moins violentes, moins idéologiques. Et je voudrais répondre à l'observation que vous aviez faite tout à l'heure. Je crois que le problème de ces élèves, c'est que souvent ils sont là avec des postures idéologiques et en fait c'est idéologie contre idéologie. Moi, plusieurs fois, quand on m'a fait ce genre de discours sur ben, finalement votre théorie, j'y crois pas, en grattant, en fait, c'est au-delà du problème de l'évolution, ce qui est remis en cause, c'est la laïcité. Et ce que vous disiez là tout à l'heure sur ce discours qu'il faut qu'on garde cette laïcité. Coûte que coûte, je crois que c'est là le fondement en fait. Hein. Tous ces gens qui sont contre l'évolution, en fait, leur gros problème, c'est finalement la mise à mal de la laïcité. Hein. Ils supportent pas qu'il n'y ait pas un discours religieux à l'école. Voilà. Et quelles que soient, je dirais, les religions, parce que j'ai eu ces problèmes avec les musulmans, mais j'ai aussi quelques soucis avec des catholiques fondamentaux. C'est pas mal non plus. C'est autre chose, mais c'est pas mal non plus. Merci. En tout cas, pour terminer, votre expérience, je sais pas si vous avez fait une petite rédaction, mais je serais très très preneur pour le bulletin de la PBG. Ça serait bien. Merci.
Mais je tenais quand même à dire que nos élèves ne sont pas le fer de lance d'un créationnisme militant. C'est une posture de réaction, de défense. Et d'ailleurs, c'est là où moi, j'ai dû changer par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure. Pour moi, il fallait que je lutte contre. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était plus une réaction et qu'il fallait les aider plus qu'autre chose. Voilà. Après, et c'est là où notamment j'avais réagi au colloque de novembre, où en fin de compte, il me semble qu'une des erreurs que l'on fait actuellement, c'est que la plupart des discours des scientifiques qui veulent attaquer le créationnisme attaquent en fin de compte un créationnisme militant, qui est organisé, qui a de l'argent, tout ça. Et en fait, les élèves, c'est pas leur problème. Moi j'appelle ça un créationnisme naïf, voilà. Et en fait, il faut arriver à.
Je crois qu'aussi le problème, c'est qu'en faisant une confrontation brutale, on en arrive à un discours idéologique de l'autre côté.
Donc il fallait
un discours scientifique pur et dur, un scientisme digne du 19e siècle. Et je crois que là, nos élèves n'en veulent pas non plus.
Voilà, ça marchera pas.
Oui, tout à fait.
Il y a encore une question là.
Moi, je vais poser deux petites questions et faire une réflexion en troisième lieu. Alors, ma première question est pourquoi vous cherchez à ce qu'il y ait vraiment une acceptation qui soit en dehors du lycée ? Deuxième question, c'est est-ce que l'expérience que vous avez faite a eu un impact sur les autres thèmes enseignés, et en particulier en biologie ?
Comment ça ?
Oui. Les autres thèmes, quand on fait de la génétique, quand on fait de l'immunologie, de l'immuno, etc., est-ce qu'il y a un impact? Ma réflexion, c'est comment une telle expérience pourrait se faire dans un lycée religieux, où on enseigne sciences, religion et philosophie. Je ne sais pas si ça existe ici, mais parce que en Tunisie, par exemple, on a les trois qui se font ensemble, c'est-à-dire sciences, religion et philosophie. Et donc, faire ce travail-là serait quelque chose de vraiment très intéressant.
Oui. C'est pour nous, ça y est, des places. Alors, la première question, pourquoi on veut absolument que ce soit accepté en dehors du lycée ? Parce que, tout simplement, si ce qu'on enseigne en classe ne leur permet pas de mieux comprendre le monde qui les entoure, ça sert à rien. Et donc de ce point de vue-là, je termine, je vous rends la parole après. De ce point de vue-là, j'avais beaucoup d'élèves qui apprenaient comme des perroquets pour avoir le bac et qui ne voyaient pas que la théorie de l'évolution, c'est pas seulement la lignée humaine, c'est aussi toute la bataille entre les antibiotiques et les virus, ceux qui vivent dans leur corps. C'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un médicament, c'est parce que ça a marché sur des animaux et que parce qu'on a une parenté avec les animaux, on peut estimer que ça marche chez nous, etc. C'est tout ça. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas balayer cette théorie, car c'est celle-là qui nous permet de faire tout le développement médical qu'il y a eu et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, s'ils n'arrivent pas à intégrer cette théorie dans leur mode de pensée par rapport à l'extérieur du lycée, c'est comme s'ils se coupent d'une partie de la société à laquelle ils participent et dont ils profitent. Donc, c'est vraiment une schizophrène, quoi.
Intégrer, oui, je serais d'accord pour dire intégrer, appréhender, mais pas vraiment accepter, parce qu'on peut avoir intégré ou appréhendé sans que ce soit nécessairement accepté, parce que très souvent accepter, c'est en termes de croyance.
Mais si c'est en termes de croyance, je ne sais pas, alors appréhender, accepter, c'est peut-être suffisant.
C'est scientifique.
À partir du moment où ils ne s'interdisent pas de comprendre cette théorie et de l'accepter, ça nous suffit.
Notre idée, c'est voilà, ne pas s'interdire de comprendre.
Ne pas s'interdire de comprendre,
oui.
D'appréhender. Oui, je préfère.
Ne pas s'interdire de comprendre. Voilà. Mais il y a quand même l'idée que ne pas s'interdire de comprendre et ne pas penser pouvoir récuser la théorie avec des arguments non scientifiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il faut se placer sur le plan de la science. Et donc, ça suppose également d'avoir une certaine tournure d'esprit, quoi. C'est-à-dire que ça doit élargir, ça doit permettre d'ouvrir l'esprit à d'autres choses, quoi. Et la deuxième question, c'est...
L'impact par rapport à d'autres thèmes, en particulier en biologie. Parce que quand on s'attaque... Oui, mais parce que quand on s'attaque à une ouverture d'esprit... en particulier justement en biologie, en évolution, parce que quand il s'agit d'évolution, c'est quelque part aller vers une approche évolutionniste, et donc ça permet normalement de mieux appréhender, donc de mieux intégrer les autres thèmes.
Certainement.
Non, alors en fait, moi ça me sert, c'est-à-dire qu'en fait quand je me suis rendu compte que cette tournure, justement ce type de résistance que j'avais, toute proportion gardée, je l'ai retrouvé dans d'autres thèmes. Alors c'est pas en bio en fait, hein, mais en philosophie, quand par exemple je traite de l'épistémologie, de l'histoire, c'est toujours des questions épistémologiques. Eh bien je dois affronter des élèves négationnistes par exemple. Donc là, eh bien, je retrouve le même type de discours où il faut que je fasse tout un travail d'épistémologie de l'histoire pour leur montrer que l'histoire, c'est pas un roman vrai, c'est véritablement, elle a une prétention à la scientificité, d'où ça vient, et qu'on peut pas prétendre dire n'importe quoi. Et je reprendrai ce que disait Pierre Vidal-Naquet au début des Assassins de la mémoire. On ne peut pas laisser parler un négationniste, ce serait comme en astronomie, parler, un physicien parlerait avec quelqu'un qui dit que la Lune est en fromage, de Roquefort. Il dit voilà, ce serait la même chose. Donc ce ne sont pas des historiens, et il est important justement de les aider à articuler, quoi, de pas dire n'importe quoi, et qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une science.
Et par rapport à l'application qui pourrait être faite dans un lycée où la philosophie serait enseignée comme la religion et comme la science, avec, oui. Ben, normalement, si les élèves arrivent à articuler et si chaque professeur, comment dirais-je, tient sa place, il ne devrait pas y avoir de problème. Si le professeur de religion ne vient pas marcher sur les plates-bandes du professeur de science quand il parle de l'évolution biologique de l'homme, il n'y a pas de problème.
Oui, alors je reviens un petit peu en arrière sur la question que vous aviez posée. Est-ce qu'on a déjà été voir dans d'autres endroits s'il y a des problèmes identiques ou analogues dans un endroit où il n'y a pas que des musulmans, pour faire court, hein, c'est pas du tout la pensée que j'ai. Donc dans une étude préliminaire, on avait été voir un lycée à Rieux-la-Pape, qui est plutôt similaire à ce qui se passe à Douaneau. On a été voir un lycée dans le 6e dont je citerai pas le nom parce que je vais vous ça c'est le point de ma deuxième remarque, et puis un lycée, je dirais normal, c'est-à-dire ni, on va dire, ni dans une ZEP, ni dans une zone bourgeoise, voilà, ni. Donc effectivement, il y a des problèmes de créationnisme, mais qui sont plus du tout au même niveau, c'est-à-dire c'est le problème de la religion catholique versus l'enseignement de l'évolution. Et donc ça m'amène à la deuxième remarque sur les problèmes à venir entre l'interaction entre la biologie et les professeurs de philosophie. Justement, dans ce lycée du 6e, le problème actuel n'est pas le problème de l'évolution, mais le problème de la conscience. C'est-à-dire, c'est là qu'on se heurte à nouveau à une conscientisation de l'esprit divin. Est-il biologique ou est-il divin ? Voilà. Et là, à nouveau, il y a des affrontements, je dirais, d'une autre nature que celle dont on vient de parler vis-à-vis de l'évolution, mais qui sont pour le moins des guerres de tranchées qui ne sont pas prêts de se calmer, en tous les cas, de ce que j'en ai observé. Voilà, c'était juste pour vous dire, une fois qu'on aura réglé le problème de l'évolution, on va avoir le problème de la conscience, et là, c'est une autre étape.
Moi, je voulais poser une question sur l'idée d'articulation. Vous avez utilisé beaucoup le mot « articulation ». Est-ce que votre objectif, c'est d'articuler les différentes façons d'expliquer le monde, ou est-ce que c'est de séparer les registres, d'identifier davantage les différents registres? Qu'est-ce que vous entendez par articuler?
Alors, c'est la question piège, merci de l'avoir posée. Alors en fait, oui... Patrick Thor, une fois, je l'avais au téléphone, je voulais qu'il vienne... au lycée, ça n'a pas été possible. Lui, il me disait, il ne faut pas articuler, il faut désarticuler. C'est vrai que cette idée d'articulation, il ne faudrait pas l'entendre comme, par exemple, une vocation au concordisme. Hein, faire en sorte que, finalement, montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Et donc, en fait, ce qu'on veut montrer aux élèves, c'est que c'est possible d'articuler, mais que l'articulation, c'est eux qui devront la faire. Et en fait, on veut les obliger à articuler en leur montrant qu'ils ne peuvent pas balayer la théorie de l'évolution au profit d'une croyance qu'ils ne veulent pas, qu'ils auraient peur de remettre en question en acceptant la théorie de l'évolution. Donc c'est vrai que là il y a quelque chose à travailler, c'est-à-dire que on veut pas les amener à faire l'articulation, mais on veut les amener à la faire, mais c'est eux qui doivent la faire. Moi je la fais pas en cours, je leur dis pas voilà regardez comment ça peut marcher. Alors après, on peut travailler avec le nomade Gould, par exemple. Bon, ça peut être intéressant. Mais j'essaie de leur montrer que ce sont des pistes, mais que de toute façon, c'est eux qui devront faire le travail. Mais c'est pas évident, parce qu'on ne veut pas tomber dans le concordisme, puis on veut pas... Il y a manifestement un problème ici, à ce niveau-là, c'est sûr. Hein? Mais eux, ils voient ça comme contradictoire. On essaie de leur montrer qu'il y en a qui ne trouvent pas ça contradictoire. Et donc, voilà, on essaie de leur donner des pistes. Regardez, peut-être que c'est possible comme ça ou comme ça. Mais en tout cas... ne faites jamais au détriment de la science. C'est-à-dire qu'il faut que vous acceptiez la science pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle élabore des connaissances qui se veulent aussi universelles que possible, et vous ne pouvez pas les balayer d'un revers de main. C'est ça qui nous importe, en fait.
Oui. Ah, le micro. Et après, on arrête.
Oui, il faut faire qu'on s'arrête.
Gueule, sinon, après, parce que...
Alors, je voudrais juste, en fait, donc je suis jeune enseignant, je suis TZR, et justement, j'étais au collège de Vaux-en-Velin à Val-d'Eau, et j'ai eu une intervention d'une de mes élèves de 4e qui m'a justement fait la remarque qu'elle n'était pas un animal. Enfin, bref, c'est pour ça que je me suis inscrite pour voir un petit peu. Non, mais c'est vrai, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Parce
on
que
pense
j'ai...
qu'elle s'est trompée ou...
J'ai pas su comment gérer son intervention. On a essayé de faire un petit débat qui a été. Enfin, j'entends du tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que bon, enfin, c'est compliqué de réagir.